J'ai intitulé cette prédication « Le nom de Jésus ». Je pense que c'est une bonne suite de ce que nous avons vécu depuis il y a une dizaine de jours, deux semaines. Prédication de Michel Zeck qui nous a encouragés dans le « Tout est accompli » de Jésus. Amen. Jésus à la croix, c'est écrit « Tout est accompli ». Il n'y a rien à rajouter à l'œuvre qui a été faite à la croix. C'est complet, c'est signé, c'est pour toujours. Le « Tout est accompli » et voilà pour ta vie. Amen. Tout est accompli. Il n'y a rien à rajouter à l'œuvre expiatoire, à l'œuvre rédemptrice de l'Éternel dans nos vies. Tout est accompli. Et les puissances des ténèbres le savent. Tout est accompli. Merci Michel pour cette exhortation tellement forte. Ensuite, le pasteur Walter, la semaine dernière, nous a exhorté sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Le sang de Jésus qui me lave de tout péché. Le sang de Jésus qui a été donné à la croix pour preuve qu'il est vraiment mort à la croix et que par son sang qui a coulé à la croix, par sa mort, je puisse avoir pleinement la vie. Alléluia. C'est essentiel. Le sang de Jésus qui m'a ôté de la malédiction du péché. Le sang de Jésus qui a ôté le malheur de la mort dans ma vie parce que Jésus m'a rejoint jusque dans l'impossible, c'est-à-dire dans la mort et même la mort de la croix. Et plus loin, le Seigneur ne pouvait pas aller. Ça, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus précieux qui a coulé à la croix jusqu'à la dernière goutte. Les démons le savent. Ils ont en horreur le sang de Jésus. Le pasteur Walter a aussi rappelé que s'il y a des personnes parmi nous qui ont des difficultés par rapport au sang de Jésus, parce que le sang de Jésus dérange, parce que le sang de Jésus représente la vie de Jésus donnée à la croix, venez nous rencontrer. Parce qu'on ne peut pas rester indifférent au sang de Jésus qui a coulé à la croix. Et l'épître aux Hébreux, dont on ne connaît pas forcément l'auteur, dit que Jésus a été à la fois sacrificateur et sacrifice. Il a été à la fois celui qui a pu présenter le sang devant l'Éternel et ensuite celui qui a été lui-même, cette victime expiatoire, qui a coulé son sang à la croix pour faire toute chose parfaitement. Et c'est pourquoi le nom de Jésus est ce nom si précieux, cette personne extraordinaire, Yeshua, Dieu Sauveur. Parce que je ne sais pas si tu t'es rendu compte aujourd'hui, tu as besoin d'un Sauveur dans ta vie. Et le Seigneur n'a pas voulu te laisser te perdre de cette manière dans ta vie, mais il a payé de sa vie à la croix pour te sauver. Si tu invoques le nom de l'Éternel sur ta vie, c'est pour le salut. Le nom de Jésus, ce nom extraordinaire, ce nom qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et je vous propose d'accueillir le roi de gloire déjà par ce psaume 24, psaume de David. Parce que nous allons parler, bien entendu, du nom de Jésus, mais il faut que nous entrions en matière. Pour découvrir les merveilles de la parole de Dieu, je vous propose ce psaume 24 déjà pour l'entrée. David souvent invoque le nom de l'Éternel au commencement de ses psaumes. Il a compris quelque chose. Il sait que lorsqu'il invoque le nom de l'Éternel, quelque chose se passe. Est-ce que tu prends le risque, comme David, d'invoquer le nom de l'Éternel sur ta vie? Si tu le fais, quelque chose, je te garantis, va se passer. Parce que le nom de l'Éternel est puissant, parce que le nom de l'Éternel est agissant, parce que le nom de l'Éternel permet quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Et voilà ce que David dit au psaume 24. À l'Éternel, à l'Éternel, à toi seul, Éternel. Et le Seigneur demande cela aussi de ta vie. À toi seul, Éternel, je reconnais que la terre et ce qu'elle renferme vient de toi. Le monde et ceux qui l'habitent, tout est de toi et tout est pour toi. Je te rends gloire par cela, Seigneur. Verset 2. Car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Il y a une disposition à avoir lorsque nous invoquons l'Éternel et bien plus, il y a une disposition à avoir lorsque nous rencontrons l'Éternel. On se prépare déjà ici pour la Sainte Seine, bien-aimée. Verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Et regarde le verset 6, et c'est là que je vais en venir ce matin aussi. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Amen. De ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Lorsque nous invoquons le nom de l'Éternel, eh bien, nous ne le faisons pas à la légère. Lorsque nous invoquons le nom de l'Éternel, c'est que nous recherchons sa face. Sinon, nous risquons de prendre le nom de l'Éternel en vain. C'est parce que je m'adresse à l'Éternel et c'est parce que je cherche sa face que j'invoque le nom de l'Éternel. Pas étonnant ensuite que David part dans cette grâce d'une louange au verset 7 où il dit « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée parce que nous invoquons le nom de l'Éternel parmi nous, amen. » Et c'est ce que nous avons fait dans le chant tout à l'heure. Nous avons invoqué le nom de l'Éternel parmi nous. Alors on dit, Seigneur, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée, parce que le roi de gloire veut faire son entrée jusque dans ta vie. Amen. Et ensuite, il y a cette question, mais qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Alléluia. Et tu peux peut-être poser cette question, qui est ce roi de gloire? Et il y a cette réponse, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, alléluia, l'Éternel des armées qui a vaincu la mort, alléluia. Et c'est pourquoi quand on invoque le nom de l'Éternel, quelque chose se passe. Lorsque tu invoques l'Éternel, tu entres dans le combat et la victoire, alléluia. Attention de ne pas invoquer le nom de l'Éternel en vain. Et ça fait partie, comme tu le sais, des 10 commandements. Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel en vain. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Parce que lorsque tu prononces le nom de l'Éternel, tu appelles quelque chose. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur désire que nous l'invoquons justement d'un cœur pur, d'un cœur droit, d'un cœur consacré, d'un cœur absolument entier pour lui. Et il y a une répétition, porte, élevez vos linteaux. Est-ce qu'on a compris? On le relit, verset 9. Élevez, portes éternelles, élevez-les, il y a quelque chose qui se passe dans les cieux. Il y a comme quelque chose qui s'ouvre quand j'invoque le nom de l'Éternel. Lorsque tu pries, lorsque tu intercèdes, lorsque tu t'adresses à ce Dieu extraordinaire, à l'Éternel, à Jéhovah, à Adonai, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si ces portes du ciel, quelque chose se déchire dans le ciel. Quelque chose répond du cœur de Dieu pour toi dans ton cœur. Parce que lorsque tu cries à l'Éternel, c'est un cri qui vient du cœur. Et tu rejoins le cœur de Dieu qui va vraiment faire quelque chose pour toi. Est-ce que tu invoques encore le nom de l'Éternel en vain? Éternel, porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Il n'y a pas de temps lorsque tu prononces le nom de l'Éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée, toute la gloire, tout l'honneur devant Dieu, tout l'honneur pour Dieu, tout ce que je veux consacrer, c'est pour l'Éternel. Et alors cette question, qui est donc ce roi de gloire? C'est une question, on va dire rhétorique, vraiment pour nous faire comprendre que c'est l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire et voilà celui que nous accueillons dans l'Église, alléluia. Voilà celui que nous accueillons dans nos cœurs, alléluia. Lorsque j'invoque le nom du Seigneur, amen. Gloire à toi, Seigneur. Et je pense que ce psaume 24 nous donne cette grâce de pouvoir entrer dans ce que c'est pleinement d'invoquer le nom du Seigneur et de comprendre ce que ça veut dire que d'invoquer le nom du Seigneur, il y a cette dimension de poursuite dans l'invocation du nom du Seigneur. Il y a cette poursuite de l'Éternel. Et je crois que l'Éternel aime beaucoup lorsqu'on le poursuit, lorsqu'on ne lâche pas. Seigneur, j'invoque ton nom parce que je veux vraiment te poursuivre. Je veux te suivre, je veux marcher à ta suite parce que je viens justement de t'offrir, Seigneur, cette louange, cette adoration, parce que tu es justement ce roi de gloire que je reconnais pleinement dans ma vie. Amen. Donc il y a la dimension de poursuite, mais il y a aussi, attention, ne prononçons pas le nom de l'Éternel en vain, parce que dans l'invocation du nom de l'Éternel, le terme veut dire aussi adorer. Donc si je prends le risque d'invoquer le nom de l'Éternel, non seulement je marque que je veux vraiment le poursuivre, que je veux vraiment tenir après l'Éternel, mais que je suis un adorateur en esprit et en vérité qui vient devant lui avec des mains pures, des mains innocentes, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? Porte, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée et que celui qui monte à la montagne devant le Saint, devant l'Éternel, devant le Dieu glorieux, le fasse d'une manière qui craigne justement le nom de l'Éternel. Amen. Ô Seigneur, augmente la crainte de ton nom dans nos vies. Et dans ce terme, dans cette dimension d'invocation, eh bien, je vous invite dans le Deutéronome, nous sommes juste dans le désert. Et dans ce Deutéronome, s'il faut commencer à être dans le désert pour commencer à invoquer le nom de l'Éternel, je pense qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire dans nos vies et veut transmettre. Parfois, lorsque tu es dans le désert, c'est justement pour que tu puisses comprendre qu'il n'y a plus rien d'autre à faire que de te tourner devant l'Éternel. Parce qu'alors, dans le désert, il n'y a vraiment rien à faire. C'est pas riche, comme l'autre disait. Savez-vous pourquoi est-ce que Dieu a conduit le peuple dans le désert ? C'est pour que le peuple cherche sa face. Oh, ce n'était pas dans, soi-disant, l'abondance, bien qu'ils ont eu l'ennui de l'Égypte, on le sait. Ils avaient déjà vraiment vite oublié, parce que les gâteaux d'Égypte et tout, c'était formidable, hein, mais on a vite fait d'oublier les 430 ans d'esclavage. Et je l'ai déjà dit ici, la démonstration de la gloire de Dieu, la démonstration des miracles de l'Éternel, la démonstration de ce que Dieu a fait en Égypte, en jugeant tous les dieux d'Égypte, n'a pas suffi pour que le peuple fasse confiance dans l'Éternel dans le désert. Vous voyez la dureté de nos cœurs, ce n'est pas une accusation, parce que j'aurais fait la même chose certainement. On ne jette pas la pierre à Israël, bien sûr, parce que nous avons des cœurs durs. Et des fois, le Seigneur nous entraîne justement dans le désert pour commencer à chercher sa face, pour commencer à ne compter que sur le nom de l'Éternel, finalement, que j'invoque. Finalement, parce que Dieu n'était pas vraiment là, à part, bien sûr, quand le tabernacle a été dressé, bien entendu, parce que c'est un Dieu de rencontre. On appelle cela aussi la tente de la rencontre. Dieu veut rencontrer son peuple. Dieu n'attend plus le temps de rencontrer son peuple, mais est-ce que son peuple va se concentrer sur la personne de Dieu? Et s'il faut le désert dans ta vie, peut-être pour cela, eh bien, bienvenue dans le désert. Et je me mets avec toi. Ce n'est pas une partie de plaisir ou une promenade de santé, la vie chrétienne. On le sait. On a prié pour nos sœurs qui sont persécutées. Je ne veux pas dire à cause du nom de Jésus, je dis grâce au nom de Jésus. C'est une grâce de pouvoir souffrir pour Jésus. Mais c'est une grâce de le rencontrer déjà dans le désert. Et dans ce Deutéronome 4, verset 29, regardez ce qu'il a dit. On va lire à partir de verset 25. « Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, on se propage dans le pays promis, on se perspective dans le pays promis. Si vous vous corrompez, si vous vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, vous vous rendez compte, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Dieu donne la grâce d'avertir son peuple parce qu'il connaît son cœur. » Verset 28, « Et là, vous servirez des dieux, ouvrage de main d'homme, du bois, de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. » Verset 29, c'est là vraiment que je voudrais attirer notre attention ce matin. « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » La dimension de chercher ici, c'est le même terme que d'invoquer le nom de l'Éternel. Et je le disais tout à l'heure, d'invoquer le nom de l'Éternel, c'est la poursuite de Dieu, c'est l'adoration, c'est de rechercher sa face. Et on a ce terme d'invocation ici, dans ce contexte d'avertissement. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors dans la suite des temps, tu retourneras l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. S'il faut le désert, pour comprendre cela, bienvenue dans le désert. Parce que c'est là que je vais rechercher la face de Dieu, invoquer le nom de l'Éternel. Plus loin, on retrouve cette dimension de grâce d'invoquer dans le chapitre 11 de Deutéronome. Deutéronome 11, premier verset, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu observeras toujours ses préceptes et ses lois, ses ordonnances, ses commandements. » On est toujours là dans le désert, hein, toujours dans le désert. Reconnaissez aujourd'hui, reconnaissez, qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Qu'il fasse son entrée. Reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants. Les châtiments de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu. Ces signes, ces actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Reconnaissez ce qu'il a fait, parce que Israël, tu commences à oublier ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Comment est-ce qu'il t'a délivré de l'esclavage de l'Égypte? Les miracles extraordinaires de Dieu ne sont pas la garantie de ma marche fidèle avec lui. Nous sommes tellement égoïstes de nature que Dieu aurait beau faire n'importe quel miracle, les miracles ne touchent pas forcément notre cœur. Eh bien, aimés, nous entrons dans des temps. Il y aura des choses absolument extraordinaires. Nous savons que des temps difficiles arrivent où même les fidèles pourront être séduits, malheureusement, par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des mirages, par tout ce que vous voulez. On essaiera de séduire les enfants de Dieu. Et moi, je préfère me tenir dans le désert, quand même pas trop longtemps, Seigneur, mais je préfère me tenir dans le désert pour continuer d'invoquer le nom de l'Éternel, pour chercher l'Éternel de tout mon cœur, pour être à la poursuite de l'Éternel, alléluia, lorsque je l'invoque, amen. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée de l'Égypte et à ses chevaux, à ses chars, comme il a fait couler sur eux les eaux de la mer Rouge lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour toujours. Parce que si tu ne poursuis pas le Seigneur, il y en a peut-être un autre ou d'autres qui vont te poursuivre. C'est extraordinaire comme la parole de Dieu est construite parce que l'ennemi ne veut pas lâcher. Tu le sais qu'il s'acharne. Tu le sais qu'il fait tout pour te décourager, pour te détruire, parce que tu es la cible numéro une, tu es créé à l'image de Dieu. Et chaque fois que l'ennemi te voit, il a horreur de toi. L'ennemi n'aime pas la création, l'ennemi n'aime pas la créature de Dieu, l'ennemi n'aime pas celui, celle qui a été créée à l'image de l'Éternel, parce que chaque fois tu rappelles Dieu à l'ennemi, alors il veut te détruire. Et nous, on a la grâce de pouvoir chercher la face de Dieu, de pouvoir invoquer le nom de l'Éternel. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, ses chevaux, ses chars, comme il a fait couler sur eux les eaux de la mer Rouge. Il y en avait, hein, lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour toujours. Amen. Il les a détruits pour toujours. Le tout est accompli, est encore actuel aujourd'hui. Amen. Ce qu'il vous a fait dans le désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu, bien sûr, fidèle. Ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, fils d'Eliam, fils de Ruben, donc on rappelle aussi ces événements, etc. Verset 7, « Car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites, ainsi vous observerez tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui et que vous avez la force de vous emparer du pays où vous avez passé pour en prendre possession. » Parce qu'on prend possession des choses que Dieu nous donne, verset 9, « Et afin que vous plongiez vos jours dans le pays que l'Éternel, ou prolongiez, pardon, vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner et à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. » Combien ça devait faire du bien d'entendre cela dans le désert. Et le Seigneur ne veut pas faire miroiter quelque chose pour te dire du lait, du miel quand tu es dans le désert alors que tu as déjà soif et que tu voudrais juste avoir de l'eau pour te soulager, ce serait pas mal. Mais c'est extraordinaire de voir que ce Dieu extraordinaire, qu'il veut vraiment rechercher le cœur de son peuple. Ton cœur, je le veux, mon peuple. Ensemble, nous allons conquérir ce pays promis où il y aura justement ce lait, où coulera ce lait et ce miel fidèlement selon ma bonté. Alléluia. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte. Pourtant, qu'est-ce qu'il y en avait des bonnes choses en Égypte, hein, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel comme en Suisse. Est-ce qu'on se rend compte aussi de la grâce qu'on a? Est-ce qu'on rend compte que l'Éternel fait pleuvoir sur les bons et les méchants la pluie? On est là, oula, il a plu une semaine, tu te dis, mais au bout d'une semaine, t'en as marre. Et pourtant, heureusement qu'il y a cette pluie. Quelle grâce! Merci Seigneur pour la pluie. Vous n'allez pas me lapider quand même, hein, j'espère. Regarde verset 12. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, invoque. C'est le même terme. Prends soin. lorsque tu invoques le nom de l'Éternel, c'est parce que tu sais que Dieu va prendre soin de toi. C'est exactement le terme. Alors j'ai second ici qui a traduit « prends soin ». Dieu veut prendre soin de toi. Et sur lequel Jéhovah, Adonai, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Je peux m'arrêter ce matin, bien-aimé, parce que lorsque j'invoque le nom de l'Éternel, lorsque je poursuis le nom de l'Éternel, lorsque je suis cet adorateur en esprit et en vérité, je sais qu'Adonai, l'Éternel, prend soin de moi, même dans le désert et surtout dans le désert. Rendez-vous avec Dieu pour toi ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce moment que nous avons avec toi. Merci pour ce rendez-vous, Seigneur, ce matin avec toi. Bien sûr, on va prendre le nom de Jésus parce que je tenais à faire cette grande introduction pour rappeler les choses, je pense, et qui nous propulse dans le Nouveau Testament, justement, dans la grâce du Seigneur, où nous avons dans le chapitre 1 de Matthieu, au verset 18, et suivant cette annonce de la venue de Jésus, avec tout le contexte de l'Éternel, bien sûr, sur Israël, sur nos vies, on voit que l'Éternel veut vraiment venir nous rencontrer et Dieu a tenu sa promesse après ces environ 400 ans de silence. Le Seigneur accompli, bien sûr, par le précurseur Jean-Baptiste qui a annoncé la voie et qui a préparé la voie de celui qui devait venir. Et au verset 18 de Matthieu 1, voici comment arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph avant leur union. Elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Oui, la parole de Dieu, c'est vrai. Si tu as un doute ce matin, la parole de Dieu le dit. C'est comme ça que ça s'est passé. J'espère que tu es dépassé par ce Dieu. C'est comme ça que ça s'est passé. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et ne voulait pas diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Deuxième répétition pour toi aujourd'hui. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Elle enfantera un fils que tu appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui se traduit Dieu avec nous. Jésus, Yeshua, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec toi. Tu invoques le nom de l'Éternel pour le salut sur ta vie. Ce salut ne peut pas venir autrement, par une autre manière que le nom de Jésus qui est Dieu avec toi. Et si tu te sens dans ce désert, traverser ce désert, si tu as le nom de Jésus avec toi, cet Emmanuel, ce n'est pas dans le désert que Dieu va t'abandonner, surtout pas. Parce que tu prends le soin d'invoquer le nom de l'Éternel. Tu prends le soin d'invoquer le nom de Jésus sur ta vie. Et alors Jésus va prendre soin de toi, parce que Jésus te dit « Je suis avec toi ». Et même jusqu'à la fin, « Je suis avec toi ». Amen. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette grâce, cette nouvelle, cette bénédiction Seigneur, de savoir que Emmanuel, Dieu avec nous, est aussi avec moi, gloire à toi. Et quand on regarde ce que le nom veut dire, le nom, dans le grec, je ne veux pas être trop technique ce matin, mais le nom caractérise l'autorité et le caractère. Et le nom de Jésus, c'est l'autorité et le caractère de Dieu manifesté pour toi. Amen. Et dans le terme de caractère, nous retrouvons ce terme de joie qui est kara en grec. Donc c'est pour cela que lorsque Jésus passe par les eaux du baptême, on voit que Dieu se réjouit et qu'il dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection parce qu'il est le reflet de ma joie. » Parce que dans le nom de Jésus, le nom manifeste l'autorité et le caractère de Dieu et la joie suprême de Dieu qu'il a pour te sauver. Amen. Ça, c'est la joie de Dieu, de vouloir un salut total pour toi dans ta vie. un salut pleinement accompli. Tout est accompli par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Alléluia. Autorité, caractère, joie de l'Éternel, charisme, don de Dieu pour nous. Apocalypse, au chapitre 2, premier verset, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite et qui marche au milieu des sept chandeliers. Nous avons bien entendu les anges et l'église. Là, je connais tes œuvres, ton labeur, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Bien-aimés, nous entrons dans ces temps, nous le savons. Tu as de la persévérance parce que tu poursuis le nom du Seigneur. Amen. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé, même dans le désert. Amen. Je rajoute ça, mais tu peux le mettre. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Le Seigneur veut faire de toi un plus que vainqueur, une plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, parce que Jésus t'a aimé jusqu'à la mort de la croix. Et tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Amen. Garde ce premier amour. Garde ce premier amour. Cet amour qui fait de toi, bien entendu, et qui a fait de toi l'enfant de Dieu. Cet amour qui te donne cette grâce, comme plus loin, dans Apocalypse 3, verset 5. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, alléluia, parce qu'ils en sont dignes, alléluia. Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père, devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est magnifique et je ne le fais pas pour cela, mais de savoir que Dieu va confesser mon nom devant les autres parce que j'ai confessé le nom de Jésus et parce que j'étais à la poursuite de son nom en invoquant le nom de l'Éternel. Amen. Retour sur l'investissement. Alléluia. Je ne cherche pas. Je ne veux pas le chercher. Mais Dieu est loyal. Dieu est fidèle. Pour justement respecter nom à nom, j'invoque ton nom, Seigneur, avec foi, avec confiance, avec grâce. Je pense que vous avez compris ce matin. Et je sais, Seigneur, que tu vas aussi mentionner mon nom, Seigneur, parce qu'il y a une dignité dans le nom. Il y a ce caractère, il y a cette autorité. Et nous avons reçu cette autorité, bien sûr, pas pour concurrencer celle de Dieu, on est d'accord, hein. Mais il y a une rencontre digne avec le Seigneur. Et c'est pourquoi on ne va pas prononcer le nom de l'Éternel en vain, parce que l'Éternel, lorsqu'il mentionne ton nom, il le fait avec respect. La preuve, c'est qu'il a donné Jésus à la croix en pensant à ton nom, qui devait être inscrit dans le livre de vie par son sang. Et ce nom ne sera pas effacé. Voilà le respect que l'Éternel a pour ton nom, de l'inscrire dans le livre de vie. Regardez le chapitre 5. Alors là, on est dans quelque chose qui me bouleverse. Le début d'Apocalypse 5. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte. » Et ça fait écho à ce psaume 24. « Portes éternelles, élevées vos linteaux, qui est ce roi de gloire? L'Éternel, qu'il fasse son entrée. » À ce moment-là, dans le ciel, il y a un ange. On a rendez-vous au ciel ce soir, aujourd'hui. On a rendez-vous avec le Seigneur aujourd'hui. Il y a cette scène où il y a cet ange qui crie d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui ?» Il est où celui qui est digne de le faire? Il y a comme un cri dans le ciel. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Il n'y avait plus de solution, même dans le ciel. C'est tellement fort ce chapitre 5, ça me bouleverse. Et Jean dit, je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder, où il y a certainement tous ces noms qui sont inscrits, tous ces noms qui doivent être sauvés, tous ces noms qui doivent avoir la grâce d'être délivrés. Heureusement qu'il y a les anciens. Et l'un des anciens me dit, mais ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Oh, c'est plus l'agneau qu'on menait à la boucherie, là. L'agneau qui, par sa vie donnée, par son sang coulé, a détrôné l'enfer, a anéanti l'enfer. C'est comme ça que Jésus est venu parmi nous. Son amour a vaincu les puissances, alléluia. Mais là, c'est le lion de Juda. Ouh, t'as déjà entendu un lion rugir, ouh là là. Une fois, j'étais dans un parc zoologique, j'étais à côté d'un lion qui s'est mis à rougir. Il y a tout qui tremblait. Ça devait trembler. Il y a ce lion de Juda qui va venir. Alléluia. Le lion de Juda qui va se lever. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des anciens agneaux, debout, qui semblait gorgé. Il avait sept cornes, sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint recevoir le livre de la main de droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il reçut le livre, les quatre êtres vivants, les 24 anciens, se prosternèrent devant l'agneau de Dieu, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les eaux, alléluia, car tu as été gorgé, tu as racheté pour Dieu et par ton sang, Seigneur, les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume des prêtres pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Et je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, disaient d'une voix forte. Alléluia. L'agneau qui a été gorgé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vient à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire, la domination au siècle des siècles. Les quatre anciens êtres vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. On a tous envie de se prosterner là et d'adorer ce Dieu extraordinaire. Alléluia. Invoquez le nom de l'Éternel, le Dieu puissant. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je me réjouis de ce temps, bien-aimé. Je me réjouis de ce temps. Alléluia, tu as reçu l'autorité dans le nom de Jésus, alléluia. Ô Éternel, tu es merveilleux. On va encore lire ce chapitre de Philippiens 2. Bien sûr que je n'ai pas tout parcouru par rapport au nom de Jésus. Il y a tellement de choses à dire concernant le nom du Seigneur. Ce nom merveilleux. Merci à l'équipe de louange d'avoir été autant inspiré. Merci d'avoir été inspiré en prenant ce chant qui parle du nom de Jésus, ce nom précieux de Jésus, ce nom que nous invoquons. Verset 1er du chapitre 2 de Philippiens, « S'il y a donc quelque consolation en Christ et tu reçois une consolation ce matin, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, tu reçois de la part de Jésus ce matin un encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, nous allons le vivre bien entendu dans la communion de la table, alléluia, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, souviens-toi que c'est un Dieu miséricordieux, Dieu, un Dieu compatissant. Paul dit, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les yeux supérieurs à vous-même. Alléluia, oui, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, merci de m'aider, Seigneur, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas pas estimé comme proie à arracher d'être égal avec Dieu. Alléluia. Mais il s'est dépouillé lui-même, ou on ne l'a pas dépouillé. C'est lui qui a choisi de se dépouiller. Amen. Il l'a fait pour toi. Il a choisi de se dépouiller pour toi en prenant la condition d'esclave, en devenant même semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et ça, j'ai encore de la peine à comprendre que Jésus a appris l'obéissance par la mort de la croix. Seigneur, je vais apprendre à t'obéir dans le désert, dans mes choses difficiles. Si on a fait cela au bois vert que tu es, Seigneur, au bois tendre, tant ton cœur est tendre, Seigneur, qu'adviendra-t-il du bois sec que je suis, Seigneur, mon cœur qui est encore si dur. Je veux aussi apprendre l'obéissance, Seigneur. Cette obéissance qui est une grâce. Il s'est abaissé lui-même. C'est lui qui s'est abaissé pour toi. En devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix, regarde le résultat. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun autre nom sur la terre et sous le ciel par lequel nous pouvons être pleinement sauvés. Amen. Dans Actes, le nom qui est au-dessus de nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchira au nom de Jésus, alléluia. Et que toute langue confessera, même la langue du diable va confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, alléluia. Alléluia, alléluia. Toute langue, parce qu'il a pris l'obéissance pour toi. Parce qu'il s'est donné pour toi, parce qu'il a donné sa vie pour toi, parce qu'il n'a pas voulu que tu te perdes. Il a fait ça pour toi. Amen.